Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la Sainte Sourate Al-Baqarah. Notre frère Borumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau journal en ce mardi 31 octobre 2023. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique intitulé « Décryptage de six techniques des médias occidentaux dans la représentation de la guerre de Gaza ». Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, le chef de la diplomatie iranienne Hossein Amir Abdollahian est à Doha pour la deuxième fois depuis le début de l'attaque israélienne contre Gaza et le 7 octobre. Téhéran appelle à la mise en place d'une commission d'enquête internationale pour les crimes israéliens. Et puis Israël sera anéanti si la guerre contre Gaza s'étend dans la région, a averti Bor Erikani, le diplomate iranien. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Pour la deuxième fois depuis le début de l'attaque israélienne contre Gaza, le ministre iranien des Affaires étrangères s'est rendu au Qatar en vue de poursuivre les pourparlers sur la perspective d'une trêve immédiate. Le chef de la diplomatie iranienne s'est rendu à Doha en vue de rencontrer les hauts responsables qataris bien engagés dans les pourparlers internationaux sur la trêve immédiate dans la bande de Gaza. Dans la première phase de sa visite, le ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a rencontré l'émir du Qatar, le cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Plusieurs représentants du Hamas sont exilés dans cette petite péninsule au sud du Golfe Persique. Les médias sionistes ont révélé que David Barnea, chef du Mossad, s'était rendu il y a deux jours à Doha dans le cadre d'une visite secrète pour parler des prisonniers israéliens. Israël menace les Palestiniens dans les médias, mais en secret, ils cherchent à négocier et à accepter leurs conditions. Prenant la parole lundi 30 octobre, lors d'une conférence de presse hebdomadaire à Téhéran, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, s'est attardé sur la nécessité de la mise en place d'une commission d'enquête internationale composée de juristes sur les crimes israéliens dans la bande de Gaza. Soulignant que les poursuites judiciaires des crimes du régime sioniste contre les Palestiniens sont une responsabilité internationale, le porte-parole iranien a fait référence à la visite du procureur général de la Cour pénale internationale au point de passage de Rafah, à la frontière entre l'Égypte et la bande assiégée, où ce dernier avait pointé du doigt les obstacles à l'acheminement de l'aide humanitaire vers Gaza. Dans cette optique, le ministère iranien des Affaires étrangères a présenté plusieurs propositions lors de la dernière réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, en vue de créer une commission spécialisée composée de juristes chargés de documenter les crimes du régime israélien, notamment en ce qui concerne sa dernière agression contre la bande de Gaza, et de fournir ces documents aux juridictions internationales, a indiqué Nasser Kanani. Sachez d'autre part que le vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé des affaires politiques a averti que si la guerre d'Israël contre la résistance palestinienne et la population civile dans la bande de Gaza assiégée s'étendait davantage, elle conduirait à l'anéantissement total du régime israélien. S'exprimant lundi 30 octobre, lors d'une interview télévisée, Ali Bar Erikani a qualifié l'opération de la résistance palestinienne contre Israël de séisme irréparable dans le système militaire et sécuritaire du régime sioniste. Enfin, le chef d'état-major adjoint des forces armées iraniennes, le général de brigade Aziz Nasirizadeh, a félicité l'aviation de l'armée de terre de la République islamique d'Iran pour ses processus militaires et ses capacités d'engagement au combat, déclarant que cette force peut mener diverses opérations 24 heures sur 24 et sans escale. Même si l'autorité des forces armées iraniennes plaît aux alliés et amis de l'Iran, elle suscite pourtant la colère des ennemis, a déclaré dimanche 29 octobre le général Nasirzadeh dans une interview accordée à l'agence de presse DEFA Presse. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Reste avec nous. Merci. Décryptage de six techniques des médias occidentaux dans la représentation de la guerre de Gaza. La mise en évidence et la minimisation ciblée, l'assimilation, la déshumanisation et la diabolisation, l'étiquetage, l'inversion de la vérité et le détournement de la réalité peuvent être considérées comme six techniques utilisées par les grands médias occidentaux pendant la guerre de Gaza. Depuis le 7 octobre, lorsque la guerre entre le régime sioniste et le Hamas a commencé et qu'au Gaza a été perpétuellement pris pour cible de missiles israéliens, les médias occidentaux se sont toujours concentrés sur cette crise. Les attaques israéliennes ont tué jusqu'à présent plus de 8 000 Palestiniens, dont plus de 60% sont des femmes et des enfants. Un regard minutieux sur les informations et les reportages textuels et visuels des grands médias occidentaux tels que Reuters, Fox News, CNN, NBC News, BBC, New York Times, etc. permettrait de comprendre certaines de leurs techniques et astuces médiatiques. Malgré les bombardements intensifs du régime sioniste et la mort de plus de 3 000 enfants, les grands médias occidentaux tentent d'édulcorer l'ampleur de la catastrophe. Au moment même où sont publiées les informations sur le nombre de martyrs palestiniens, la destruction de maisons et d'hôpitaux, ils pointent le Hamas du doigt d'accusation plutôt que de lier ses crimes au régime sioniste, comme on le voit dans le rapport du New York Times. En plus de cette culpabilisation et de cette minimisation qui inclut même le génocide des Palestiniens, la question de la prise d'otages semble prédominante. En recourant à ces tactiques, ils tentent de rejeter la faute sur le Hamas, de légitimer les attaques israéliennes et de détourner l'opinion publique des crimes croissants commis par les sionistes à Gaza. Les reportages de CNN peuvent être inclus dans cette catégorie. Certains médias occidentaux, comme NBC News, évoquent également des enlèvements, affirmant que la prise d'otages a été l'objectif principal de l'attaque du Hamas contre les territoires occupés. Outre les objectifs cités, la mise en évidence et l'exagération de la question des otages sont constamment répétées pour stimuler les émotions. Un rapport de Reuters mentionne la récompense du régime pour ceux qui pourraient fournir des informations sur la situation des otages. Technique d'assimilation. En matière d'assimilation, deux événements complètement incongrus et dissemblables, mais présentant des similitudes dans leur forme, sont comparés. Autrement dit, un événement qui s'est définitivement produit est assimilé à un autre événement censé être induit. Cette tactique a été utilisée cette fois par les médias étrangers pour assimiler le Hamas à Daesh. Or, il n'y a aucune similitude entre l'un et l'autre, alors que Daesh était un groupe radical et terroriste, cherchant à dominer le monde, le Hamas combat un régime usurpateur pour récupérer ses terres usurpées. Déshumanisation et diabolisation. Avec la technique de diabolisation, les médias occidentaux et les experts en guerre psychologique tentent de discréditer la cible dans l'esprit du public et de la diaboliser. Cette technique, en taxant l'adversaire d'attributs négatifs tels que voleur, meurtrier, menteur, etc., cherche à préparer les esprits à l'usage des mesures inhumaines et démoniaques contre les pays cibles. Tenter de présenter une image violente, cruelle et indifférente face aux besoins et aux sentiments d'autrui s'inscrivent également dans cette catégorie. Les explications données à propos de la technique de déshumanisation et de diabolisation permettent de comprendre clairement le pourquoi de la répétition du terrorisme en référence au Hamas. C'est le cas, par exemple, d'une nouvelle publiée par Fox News. Cette méthode médiatique, en qualifiant le Hamas de groupe terroriste, des actions telles que le siège, la guerre, le génocide et les crimes de guerre contre Gaza sont présentées comme normales et légitimes. Technique d'étiquetage. En recourant à cette technique, les médias tentent d'attribuer sans preuve irréfutable à l'appui des vertus ou des défauts à un groupe, une classe ou un pays, et en font la reine de l'esprit du public par le biais de la technique de la répétition. L'usage de certains titres positifs, tels que démocrate, libérateur, salvateur, modéré, ou certains titres négatifs, tels que terroriste, réactionnaire, extrémiste, fasciste, etc., sont des symboles raccourcis et brefs qui pourraient conditionner le public à l'égard des personnes pour lesquelles ces termes sont utilisés à répétition. Ils peuvent ainsi susciter certaines impressions dans notre esprit à l'égard de ces personnes. Outre le terrorisme, les médias occidentaux utilisent même des termes comme usurpateurs et ravisseurs, mais ils ne mentionnent pas la population de plusieurs milliers de Palestiniens enfermés dans les geôles israéliennes, tout comme un récent reportage publié par Fox News et présentant en même temps le Hamas comme un preneur d'otages. Inversion de la vérité. Même si le reflet de la vérité et de la réalité devrait faire partie des missions des médias, les médias occidentaux ont montré au cours de cette période d'environ 3 semaines qu'ils essayaient de changer le rôle de l'opprimé et de l'oppresseur. À titre d'exemple, BBC évoque simultanément dans un tweet la terreur du Hamas et la répétition de la tragédie du 11 septembre. Bien sûr, dans le texte du tweet de la BBC, les images de 2 journaux anglais, le Sunday Times et le Sunday Telegraph, sont relayées, sommant que ces médias suivent une procédure unique au sujet de la guerre de Gaza. Détournement de la réalité. L'une des questions les plus importantes entourant la guerre à Gaza est celle des droits de l'homme et des crimes du régime sioniste contre le peuple palestinien innocent et non armé. Au cours des dernières décennies, les organisations internationales de défense des droits de l'homme, telles qu'Amnesty International, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, Human Rights Watch, etc., ont enregistré de nombreux rapports sur les actions criminelles de l'entité israélienne en violation des droits du peuple palestinien. Ces rapports comprennent entre autres des attitudes violentes, inhumaines, dégradantes, la torture, le déplacement, l'infanticide et des exécutions sommaires. Toutefois, l'une des raisons de l'inattention envers les droits fondamentaux de la nation palestinienne et de la population de Gaza réside dans le manque d'une représentation réelle par les médias occidentaux. Cette approche se voit ces dernières semaines malgré l'intensification des bombardements d'écoles, d'hôpitaux et de mosquées. Les médias occidentaux ne font aucune mention de la genèse de la crise et des conséquences de la tutelle britannique sur la Palestine qui a conduit à cette guerre de 75 ans. Les colonisations illégales ont été délibérément ignorées au fil des années et les tentatives précédentes et actuelles du régime israélien, soutenues par les États-Unis et la Troïka européenne pour expulser les Palestiniens de Gaza vers l'Égypte, sont reléguées au second plan. Afin de détourner l'opinion publique des réalités actuelles et historiques, les médias occidentaux mettent en exergue des questions secondaires et marginales.
Bonjour à tous, bienvenue ici dans les studios de Presse TV, dans la capitale iranienne, Téhéran. Le sujet du jour, comme depuis ces 20 derniers jours, concerne donc la Palestine, la situation palestinienne, notamment à Gaza. Le sujet par rapport à la Palestine du jour va se concentrer surtout sur l'implication des États-Unis dans le travail et le terrorisme de l'entité sioniste Israël. Je vous propose tout d'abord donc de regarder notre reportage préparé à cet effet et par la suite nous ferons venir nos deux invités. Tout de suite, notre reportage.
Au cours d'un entretien samedi 28 octobre avec Al Jazeera, le président iranien a déclaré « Après l'opération Temple d'Al-Aqsa, le régime sioniste n'a pas été en mesure de remporter une véritable victoire et c'est un échec stratégique. » Pour le président iranien, la défaite subie par Israël lors de sa récente invasion terrestre de Gaza constitue une seconde victoire pour les groupes de résistance palestiniens en pleine opération Tempête d'Al-Aqsa. Le président iranien a déclaré que la défaite d'Israël lors de son invasion terrestre de la bande de Gaza assiégée constitue la deuxième victoire des groupes de résistance palestiniens qui ont lancé l'opération Tempête d'Al-Aqsa contre le régime sioniste. Les crimes du régime sioniste ont franchi les lignes rouges, ce qui pourrait obliger tout le monde à agir, a déclaré le président de la République islamique d'Iran. Critiquant le soutien effréné des États-Unis à Israël dans son invasion sanglante de Gaza, Raisi a déclaré « Washington nous demande de ne rien faire, mais il continue d'apporter un large soutien à Israël et ce n'est pas acceptable ». Il a également souligné que les États-Unis avaient envoyé des messages à l'axe de la résistance et qu'ils avaient reçu la réponse claire à leurs questions sur le champ de bataille.
Nous revoilà donc sur le plateau télé. Alors tout d'abord, la venue de nos invités, comme indiqué. Donc tout d'abord, M. Bernard Cornul, un de nos experts, souvent interrogé concernant donc la situation en Palestine. M. Cornul, bonjour.
Bonjour à vous et bonjour à M. Corneille et à vos téléspectateurs.
Merci beaucoup, M. Cornul. Alors, vous l'auriez compris, notre deuxième invité est M. Jean-Maxime Corneille. Bonjour, M. Corneille, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Bonjour également, plaisir partagé et bonjour à notre vénérable M. Cornul.
Alors, ça fait plus de 20 jours, malheureusement, parce qu'il y a des morts, 8 000 morts, 20 500 blessés, plus de 20 jours où on se retrouve sur ce plateau télé pour parler de la question palestinienne. Monsieur Cornul, aujourd'hui, nous voulons nous intéresser du rôle des États-Unis. Monsieur Raisi a indiqué, le président de la République islamique d'Iran, a indiqué le fait que les États-Unis et le monde de l'Occident souhaitaient remodeler le Moyen-Orient. Ils avaient déjà essayé avec la guerre et le conflit avec Daesh, donc en Irak et en Syrie, échec au vu de la résistance qui s'est améliorée au fil des ans. Et là, à nouveau, on a cette perception par certains experts et par les propos du président de la République islamique lui-même que c'est encore une autre volonté de changer donc c'est la formation du Moyen-Orient. Il a invité les pays arabes voisins de l'entité d'entité d'occupation à réagir en disant qu'après la Palestine, ça sera vous. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'on est face à une nouvelle volonté des États-Unis donc, et donc de tout ce qui concerne le sionisme de changer une nouvelle fois, d'une autre manière cette fois, le Moyen-Orient que l'on connaît?
Il faut d'abord rappeler que le soutien des États-Unis à la colonisation du Moyen-Orient et de la Palestine en priorité, au bord de la mer, non loin du canal de Suez, est très ancien. Vers le début des années 1900, le mouvement sioniste américain s'était organisé, avait placé des gens très haut placés à la Cour suprême et près du président américain. Et dès la guerre européenne de 1914, même avant que les Américains interviennent dans la guerre, après le bombardement d'un de leurs bateaux, et après, juste au moment de la déclaration Balfour, donc avant cette période-là, le mouvement sioniste américain finançait massivement par de l'or transmis aux Britanniques pour financer le réseau d'espions juifs dirigé par Aaronson et ensuite par sa sœur pour enseigner les troupes britanniques et françaises, mais enfin surtout les Britanniques, sur les positions des troupes ottomanes qui étaient en Syrie, qui étaient en Arabie saoudite, enfin ce qui est devenu l'Arabie saoudite, qui renseignait aussi sur l'état des puits d'eau qui étaient nécessaires pour les transports en locomotive à vapeur et à charbon et à bois des troupes ottomanes. Donc, mais je dis donc ce soutien est très ancien, il s'est transformé plusieurs fois. Les objectifs étaient à la fois idéologiques, religieux, messianiques, mais ils étaient aussi économiques, puisque dès le début des années 1900, vers 1905, 1902, 1905, les Britanniques et d'autres connaissaient l'importance des gisements pétroliers et gaziers du Moyen-Orient, parce que plusieurs enquêtes avaient été menées par des Autrichiens et aussi par des Allemands, suite à, dans le cadre de la Convention pour la construction de chemin de fer, la prolongation du chemin de fer de Konya jusqu'à Bagdad. Et dès 1905, les Anglais et les Britanniques avaient payé la corruption à un technicien allemand pour obtenir les cartes. Et ces cartes ont été utilisées d'ailleurs au moment des négociations dites Sykes-Picot en 1916, puisque les Britanniques tenaient beaucoup au pétrole du Moyen-Orient. Ils avaient déjà fait des accords avec la Russie tsariste pour se partager l'influence en Iran notamment et pour pouvoir exploiter les gisements de pétrole dans le sud. Cette motivation continue et notamment elle est très efficace en Amérique puisque dans le Texas il y a beaucoup de pétrole, le parti républicain est très implanté dans le Texas. Monsieur Bush père avait été le patron d'une compagnie pétrolière qui s'appelait Zapata Oil Company et bien sûr après avoir été en Chine comme diplomate et ensuite et aussi patron de la CIA, il est devenu président des États-Unis et c'est lui qui a arrangé une guerre contre l'Irak pour contrôler cet Moyen-Orient. Et cette guerre a été entretenue d'ailleurs par les Israéliens, par le gouvernement israélien et par les États-Unis, en partie aussi un peu par la France, pour que cette guerre entre l'Irak et l'Iran, la première guerre, disons celle du Golfe de 91, celle de 80 à 88, dure le plus longtemps possible. Donc, il y a des intérêts idéologiques dont on parle beaucoup, les intérêts religieux, mais je pense que le soubassement est vraiment économique. Et aujourd'hui, quand on dit qu'il faut diminuer les productions, les consommations de pétrole, le gaz est une énergie de transition importante. Et on sait que l'Iran, le Qatar sont des régions très riches en gaz. La Russie, évidemment, aussi, première réserve dans le monde. Et donc l'Iran est la deuxième et le Qatar la troisième. Et donc cette région reste stratégique et les intérêts idéologiques sont là et religieux sont là pour en fait camoufler, à mon avis, ces intérêts économiques qui prédominent et qui déterminent le pouvoir des républicains aux États-Unis et aussi lors de transition le pouvoir démocratique, enfin du Parti démocrate en Iran, parce que de toute façon les institutions américaines font que le partage est souvent partagé et qu'en fait qu'il est souvent tenu par les grandes entreprises financières et pétrolières.
Merci Monsieur Cornu.
Voilà, pourquoi les Américains continuent à soutenir malgré l'atrocité du comportement des gouvernements israéliens depuis 1948, même depuis 1946, c'était pas le gouvernement mais c'était des milices terroristes juives qui sévissaient là-bas. On connaît aussi les attentats de cette époque, 48, l'assassinat du médiateur des Nations Unies, le comte Bernadotte, le 17 septembre.
Merci, Monsieur Cornu, je rebondis.
Lors d'une médiation.
Merci, Monsieur Cornu.
Laissez terminer, Monsieur Cornu, excusez-moi. C'est vraiment intéressant ce qu'il dit. Laissez-le juste terminer là, s'il vous plaît.
D'accord.
Et je pense donc qu'il faut que les Américains réalisent et que l'Europe réalise que les gouvernements israéliens successifs depuis 1948 et l'armée ont été aussi des mouvements terroristes très importants et qu'on peut donc les accuser de cela et faire réaliser par nos opinions publiques en Occident qu'il faut vraiment agir de façon forte pour cesser cette colonisation, ces meurtres ciblés, extrajudiciaires, ces démolitions de maisons, comme ça a été dit récemment, et qu'il faut donc que l'Europe intervienne. Pourquoi l'Europe ? Parce que l'Europe n'a pas vraiment fait un soutien continu depuis la déclaration de Venise par l'Europe, a dit qu'il fallait créer deux États et trouver une solution juste et durable pour un État palestinien fiable avec Jérusalem Est comme capitale et d'ailleurs avec un couloir entre la bande de Gaza et la Cisjordanie afin d'assurer la viabilité de cet État. L'Europe aussi est un exemple de fédération d'États ou d'union d'États qui se sont fait la guerre pendant des siècles, des guerres terribles, y compris la guerre de 14, la guerre de 39-45, et qui sont arrivés ensuite à définir une union d'États progressivement étendue à d'autres pour assurer la paix et la sécurité dans cette région-là, par un dialogue qui a dans une zone qui a de nombreuses langues, qui a de nombreuses traditions, mais qui est arrivé à définir une union, certes imparfaite, une monnaie commune pour la plupart de ces pays, donc c'est l'euro, et donc est un exemple pour ce que pourrait devenir le Moyen-Orient, où il y a aussi de nombreuses religions dès l'origine, de nombreuses ethnies, de nombreuses langues, mais aussi dans le passé des très bonnes périodes de coopération entre les peuples, de mouvements, de mariages entre les familles, entre toutes les religions et les ethnies, mais aussi de quelques guerres. Donc cet exemple de l'Europe peut servir. C'est pour ça que je plaide pour que l'Europe soit la médiatrice dans ce conflit terrible qui dure depuis trop longtemps et qui a fait de nombreuses destructions et de meurtres. Et qu'il faut que les gens soient conscients à la fois de cet héritage historique et de ce potentiel pour l'avenir.
Merci, M. Cornu. Alors, je rebondis sur les propos que vous avez tenus au tout début concernant donc la cession du gaz donc, dans la région du Moyen-Orient. Vous avez cité les pays du Moyen-Orient. On a oublié de parler du fait que l'entité sioniste a un projet de gazoduc en Méditerranée qui a été la plupart du temps bloqué par l'Algérie et qui, avec ce qui est en train de se passer, et l'Iran a souvent ces derniers 20 jours indiqué que l'entité sioniste est en train de perdre. Est-ce que, M. Corneille, on peut envisager le fait que cette défaite décrite par l'Iran, en fait, concerne surtout d'un point de vue économique, parce qu'après ce qu'est en train de faire chaque jour l'entité sioniste à Gaza, aux Palestiniens, parce qu'il y a également la Cisjordanie, on ne parle pas assez, également touchée par ces attaques permanentes, même durant ces 20 derniers jours. Est-ce que ce projet de gazoduc qui avait été permis grâce à la normalisation, on n'oublie pas que l'un des projets de la normalisation c'était permettre donc une avancée économique pour l'entité sioniste, est-ce que donc l'entité sioniste se retrouve à énormément d'années en arrière face à la normalisation, face à son projet de gazoduc? On rappelle que l'une des raisons de la guerre en Syrie a été également ce fameux gazoduc voulu par la Russie et par également les pays comme la Syrie, puisqu'il devait y aller jusqu'en Syrie. Et là, on savait que le projet de l'entité sioniste était contre donc ce projet syrien de gazoduc jusqu'en Russie. Est-ce que donc ce projet-là est la véritable perte de l'entité sioniste, Monsieur Corneille?
C'est le vrai sujet. C'était un article de William Engdahl, dont je suis le traducteur en français, un très grand spécialiste du pétrole, que j'avais traduit en 2015 au sujet de la folle géopolitique israélienne gazière avec le projet Istmel. Et si on revoit, vous avez bien raison de rapprocher ceci de la guerre de Syrie, car regardez, nous avons une alliance de trois petits pays fouteurs de troubles que sont Israël, le Qatar et l'Azerbaïdjan. Et là, il y aurait... M. Cornu a fait vraiment un rappel historique très juste, et qui concerne précisément notamment l'Iran. L'Iran qui, depuis 1905, avec l'affaire Nox-Darcy, Cinerelli aussi, l'agent juif britannique, très méritant par ailleurs cet agent, parce que plus tard, il a pris parti contre justement ce judaïsme international qui a détruit la Russie avec la révolution bolchevique. Mais Cinerelli, à l'époque, avait spolié, avait récupéré en sous-main les pétroles d'Iran pour le compte de la couronne britannique. Sauf que deux ans plus tôt que cet écrit passé, c'est une déstabilisation, la mère de toutes les opérations de déstabilisation pétrolière qu'aujourd'hui personne ne connaît, qui a eu lieu à l'époque en Russie en 1905, en instrumentalisant dès cette époque les Azéris, et où l'on a vu intervenir des gens comme par exemple Staline, qui tient donc été contremaître dans une usine Rothschild, qui dit Rothschild dit pétrole et haute finance britannique. Revenons au XVIe siècle. l'origine de la surpuissance méconnue de l'Empire britannique, c'était quoi? C'était son alliance avec les pseudo-réfugiés juifs d'Espagne et du Portugal qui ont amené en Angleterre, puis avant aux Pays-Bas, puis en Angleterre, les réseaux commerciaux juifs internationalistes, et ce fut l'origine de la surpuissance de l'Empire britannique, puis plus tard de l'Empire américain, au gré de ce que j'appelle donc une alliance anglo-américano-israélienne. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en arrière-plan pour comprendre la longue constante. Monsieur Cornu a très bien rappelé, on fait des guerres pour des intérêts avant tout. Pour des intérêts, et plus précisément, l'internationalisme financier se bat pourquoi? Pour la monopolisation de toutes les matières premières stratégiques, de tout ce qui rapporte de l'argent. L'or, le diamant, le pétrole, le gaz. Avec, en plus, une subversion messianique qui se greffe par-dessus. Je vous renvoie au livre de mon ami Youssef Indy au sujet du fait que dès le XVIe siècle, Charles Quint a été approché par des dignitaires juifs qui voulaient que les chrétiens reconquissent la Palestine pour que les juifs n'aient pas à le faire et qu'il n'y ait pas de brèche dans le Talmud. Non, ce sont les autres qui l'ont reconquis pour nous, etc. Rappelez-vous également que l'état profond, ce qu'on appelle l'état profond, je vous renvoie à Peter Daly Scott au sujet de cette union en réalité entre les banques, les pétroliers historiquement, puis le CMI, le complexe militaro-industriel. Mais celles qui gouvernent, ce sont les banques. Le pétrole a été un accélérateur de la financiarisation du monde. Mais encore une fois, on fait des guerres pour des intérêts. Dans ce contexte, que l'Europe puisse avoir davantage de pouvoir aujourd'hui, non. L'Europe a été détruite pour des raisons pétrolières. Chaque pays qui a tenté d'être indépendant d'un point de vue pétrolier s'est fait détruire. Je pense à l'Allemagne, bien sûr, la France aussi, avec les guerres de décolonisation. C'était pour empêcher la France de développer la moitié de l'Afrique avec ses alliés africains de l'époque. On a remplacé ça par beaucoup de mensonges, mais on voit souvent qu'Israël est d'ailleurs présente là, à chaque fois où la France se fait évincer, c'est étonnant. Au Rwanda, en Côte d'Ivoire, c'est étonnant. Hein. Et donc, quand vous reliez tous les points, vous avez en fait un rapport de force entre Israël, le Qatar et l'Azerbaïdjan en tant que trois petits pays qui tentent de tirer leur épingle du jeu face à des gros pays qui ne l'entendent pas vraiment de cette oreille-là. Parce qu'on sait très bien que c'est une logique de parasite et que ces gens-là ont beaucoup à se reprocher dans la destruction justement de leurs voisins. Par exemple l'Iran, par exemple la Russie, par exemple évidemment la Syrie, l'Arabie. Tout ceci, c'est la zone BRICS. C'est-à-dire que les pays fauteurs de troubles aujourd'hui sont en train de se voir réimposer un rapport de force. Et Israël en effet a chaud aux fesses aujourd'hui puisque aucune solution ne va être bonne aujourd'hui pour Israël. Mais, c'est ce que j'avais prédit dès l'été 2015, l'Arabie Saoudite a compris, l'Iran sait très bien depuis longtemps contre quoi il se bat, contre quoi les Iraniens se battent, et nous avons eu, grâce à feu le grand général Qassem Soleimani, le réétablissement d'un rapport de force contre Israël, qui était la seule façon de faire évoluer Israël vers plus de conscience, parce que, de fait, je l'ai déjà dit sur votre antenne, Israël est en train de reproduire toutes ses erreurs historiques. Ces gens n'apprennent pas. C'est bien dommage, c'est bien dommage encore une fois que, comme d'habitude, je pense que ce sont les Juifs qui le méritent le moins, qui vont subir les conséquences. Il n'empêche qu'il est nécessaire de réétablir un rapport de force qui arrange clairement bien la Russie et l'Iran avec ce déni stratégique. Il est absolument normal et naturel de dire que la Russie n'a pas du tout intérêt à ce qui se passe à Gaza, l'Iran pas du tout non plus. Par contre, Netanyahou, oui, il y a un intérêt, ça c'est clair, sauf que Netanyahou va s'y brûler les ailes, évidemment. Netanyahou a voulu recréer une alliance sacrée sur sa personne, grand Netanyahou. Sauf que rajoutons un petit brin de messianisme. Vous vous souvenez du Rebbe Lubavitch qui avait rencontré deux fois Netanyahou en 88 et 90. Le 18 novembre 1990, il avait prodigué sa bénédiction au même Netanyahou. Les mots du Rebbe Lubavitch étaient alors teintés du pire des fanatismes qui fit tant de mal au judaïsme durant sa longue histoire. Il lui avait dit, depuis notre première rencontre, il l'avait déjà rencontré en 88, beaucoup de choses ont progressé, mais ce qui n'a pas changé, c'est que le Messie n'est pas revenu. Donc faites quelque chose pour hâter sa venue. Alors que bien sûr, sur le site Lubavitch, on dit non, hâter la venue du Messie, ce n'est pas bien, il ne faut pas le faire. Sauf que là, on avait le Rebbe qui disait à Lubavitch en 90, apparemment, vous n'avez pas fait assez, beaucoup d'œuvres se sont écoulées, vous pouvez encore faire quelque chose. C'est terrible, parce que ça, c'est du fanatisme. Et encore une fois, normalement, on fait des guerres pour des intérêts. Par contre, au sein du judaïsme, il y a en effet un très ancien fanatisme qui datait même d'avant le judaïsme, dont témoigne l'Ancien Testament. Le judaïsme n'a pas été capable de se réformer, c'est la raison pour laquelle le christianisme puis l'islam ont été créés, et nous arrivons de nouveau aujourd'hui à revoir sous nos yeux ce qu'il s'est passé durant l'Antiquité, c'est-à-dire une pulsion d'autodestruction d'un certain judaïsme fanatique qui va toujours faire pour victime collatérale les juifs qui n'ont rien demandé, mais en même temps qui ont été complices de cela. C'est comme la France, quand on est vassal, on est complice de guerre. Les juifs, même quand ils ne sont pas fanatiques, endossent les actes et le fanatisme des pires de leurs rabbins, faute de leur dire arrêtez vos conneries. En réalité,
en tout cas,
sur arrêt, son assa régulièrement. Pardon, Bernard.
En tout cas, certains juifs, pas tous.
Bien sûr, absolument, mais ils en seront victimes, et c'est tristoun, parce qu'en effet, dans Haaretz, nous avons une gauche humaniste israélienne qui est vent debout contre ces gens-là. Et
merci,
ce sont
monsieur
ces gens-là qui, curieusement, ont été sacrifiés d'ailleurs à partir du 7 octobre. C'est très bizarre la façon dont a été ciblée spécifiquement une gauche israélienne la moins fanatique, comme si ça arrangeait Netanyahou. Donc j'ai bouclé une grande boucle. Je pense que c'est complémentaire aux éléments de M. Cornu.
Oui, et d'ailleurs, je souhaitais... Je souhaitais rebondir sur le deuxième propos tenu par M. Cornu lors de son interaction. Alors, vous avez indiqué aussi que vous souhaitez que l'Europe joue un rôle plus important. Alors, ça sera très rapide parce qu'on arrive à la fin de notre débat. Alors, vous avez expliqué. Alors, la chose que je pourrais contrecarrer à vos propos, c'est que l'Europe ne s'est pas tenue contre le conflit avec l'Ukraine, a laissé l'OTAN jouer le rôle qu'on connaît actuellement en Europe. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop optimiste concernant le fait, et en très peu de mots, j'en suis désolée, du fait que l'Europe ait encore quelque chose à jouer sur le conflit donc pour les territoires palestiniens?
Oui, je suis optimiste et pessimiste, parce que c'est vrai que la situation est très difficile, mais il faut quand même espérer, il faut quand même bouger, il faut quand même convaincre les dirigeants politiques, leur donner des informations, des analyses qu'ils n'ont pas toujours, parce que ils n'ont pas la connaissance du terrain, ils n'ont pas la connaissance du Moyen-Orient, ils n'ont pas la connaissance de l'histoire même, de l'énergie. Et il faut donc les approcher, leur expliquer, et je ne cesse de le faire. Vous y contribuez aussi par votre télévision, qui est souvent très bien documentée. Donc, et je crois qu'en en Europe, pourrait se jouer une majorité qui puisse avancer dans cette situation terrible. Et pour donc faire une médiation entre les États-Unis et l'État d'Israël et les États du Proche-Orient pour trouver des solutions juste et durable à cette situation tragique.
Merci, Monsieur Cornu. Je suis désolée, on pourrait encore plus débattre sur les propos que vous venez de tenir. J'ai vu les réactions de Monsieur Corneille. Malheureusement, notre débat se finit ici. Je vous remercie pour cette riche expertise, les informations qui ont été partagées avec nous aujourd'hui sur les plateaux de Presse TV. Vous, chers auditeurs, je vous remercie de nous suivre. N'hésitez pas à voir, revoir et même à partager nos contenus débats qui, ces derniers 20 jours, concernent donc la Palestine et la situation palestinienne. Je vous dis à bientôt pour un autre sujet du débat ici dans la capitale iranienne Téhéran, dans les studios de Presse TV. Au revoir.
Histoire des sciences en Iran. L'année 2022 a été nommée l'année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable et est célébrée dans le monde entier. Dans ce programme, nous allons essayer de vous familiariser avec le brillant passé des sciences fondamentales en Iran et les figures de proue dans ce domaine. Ce programme vise à faire connaître les acquis uniques d'une nation qui a resté inconnue malgré ses innombrables services à l'humanité. Chers amis auditeurs, bonjour. Dans le nouvel épisode du programme Histoire de la science en Iran, nous avons l'intention de présenter deux dames scientifiques éminentes iraniennes dans les domaines de la nanotechnologie et de la médecine. Merci de rester avec nous. La professeure Azam Irajizad est née en 1955 à Téhéran, capitale iranienne. Son père était un artisan dans le domaine de la marqueterie. Azam a passé ses années d'école primaire et secondaire à Téhéran et en 1974, elle a été acceptée au département de physique de l'Université de technologie de Sharif à Téhéran. Après avoir terminé sa licence en Iran,
elle s'est rendue en Angleterre et de 1986 à 1990, elle a obtenu sa maîtrise, son doctorat et son postdoctorat dans le domaine de la physique du solide avec une spécialisation en physique des surfaces à l'Université de Sussex en Angleterre. Pendant ses études doctorales à l'Université de Sussex, le domaine de travail d'Ira Gizot était la physique des surfaces. Par conséquent, la plupart de ses activités à cette époque étaient réalisées dans des dimensions inférieures au nanomètre. Après son retour en Iran, l'intention de cette physicienne a été attirée sur le thème des couches minces, qui est l'un des thèmes de la nanotechnologie, faute d'équipements et de possibilités à cette époque-là. Actuellement, ses études sur le thème des couches minces, comme un domaine de recherche de la nanotechnologie, portent principalement sur les nanomatériaux et leur synthèse, ainsi que sur la nanoparticule et leur utilisation dans diverses industries. La fabrication des capteurs de gaz à base nanoparticules, des écrans d'affichage flexibles à structure nanométrique, l'utilisation de nouvelles méthodes telles que les lasers pulsés pour fabriquer des nanoparticules, etc., font partie des autres activités de cette physicienne iranienne. Bien entendu, une partie de ces activités est également liée à des sujets plus petits que le nanomètre. En 2003, Madame Azam Irajizad et un groupe de professeurs de physique sont arrivés à la conclusion qu'il était nécessaire de créer un centre de recherche scientifique et nanotechnologique. Le centre de recherche nanotechnologie a été démarré et a commencé à accepter des doctorants dans le domaine des sciences et des nanotechnologies. À l'heure actuelle, le centre de recherche est connu comme le pôle des nanostructures et la professeure Azam Irajizad en est responsable. Il convient de mentionner que ledit centre est le premier pôle scientifique dans le domaine des nanotechnologies du pays. Le Centre de recherche scientifique et nanotechnologique a par ailleurs réussi à produire de nombreux produits. Il existe de nombreux produits que les professeurs de ce centre ont réussi à synthétiser avec la coopération d'équipes d'étudiants, parmi lesquels on peut mentionner les cas suivants. Des capteurs nanométriques pour le méthane, dont un échantillon industriel a été fabriqué, des cellules solaires à base de nanotubes d'oxyde de titane, dont un échantillon industriel a été produit, les nanocapteurs d'hydrogène à base d'oxyde métallique et de silicium poreux à l'échelle du laboratoire, la synthèse des nanoparticules métalliques d'or, d'argent, de cobalt, de palladium, etc. par laser en laboratoire, le savoir technique dans la fabrication de revêtements antibactériens à base de non-argent, fabrication de revêtements auto-nettoyants à base d'oxyde de titane, la synthèse de nanoparticules d'oxyde de titane, synthèse d'électrodes aux propriétés photocatalytiques, etc. Le Centre de recherche en nanotechnologie avait besoin de ressources humaines efficaces pour industrialiser les produits, les gens qui puissent recevoir et comprendre les idées de l'université dans ce domaine et les transformer en produits industriels. Heureusement, le département de formation de ce centre de recherche a connu un certain succès et les diplômés de maîtrise et de doctorat de ce département ont été encouragés à transformer leurs idées et leurs connaissances techniques en produits industriels. Dans une interview faite en 2015, le professeur Irajizad déclare « Dans notre pays, en plus de la recherche, un chercheur est censé former des étudiants, se connecter avec l'industrie, financer ses recherches. Il est également responsable de l'avenir de la production de produits et du marché. Concernant ses réussites scientifiques, la professeure Irajizot dit « Je considère que le facteur le plus important de ma réussite est la confiance en mes activités et l'amour que j'ai pour mon pays. C'est ce qui est très important pour le progrès du pays ainsi que pour le bien-être et la santé de la population. » Ce qui lui a valu un succès important dans les festivals scientifiques, c'est la publication de nombreux articles scientifiques ISI avec la participation de ses étudiants, la présentation de plusieurs articles dans les conférences scientifiques, la direction des mémoires et des thèses de doctorat, l'obtention de la plaque d'honneur dans la conférence 1002 KMCM. Elle est actuellement membre du corps professoral de l'Université de technologie de Sharif à Téhéran. Le docteur Azam Irajizad était la seule dame directrice de la faculté de l'Université de technologie de Sharif et a travaillé comme assistante de recherche à la faculté de physique de cette université pendant 2 ans. Elle dirige désormais l'Institut de recherche en sciences et en nanotechnologie de l'Université de Sharif. Elle est connue comme la première dame active dans le domaine de la nanotechnologie en raison de ses expériences scientifiques dans ce domaine scientifique, de la physique des surfaces et des basses températures. Dans cette partie de l'émission, nous vous présenterons une autre dame scientifique iranienne et ses activités scientifiques à l'échelle nationale et internationale, Madame Maryam Esmaili. Maryam Esmaili est née à Shiraz, au centre de l'Iran. Elle est médecin et conseillère en génétique qui a terminé ses études en médecine dans l'Université des sciences médicales de Harvard aux États-Unis. Elle est membre du corps professoral de l'université et titulaire des médailles d'or, de diplômes d'honneur et des titres de meilleures inventrices de 2008 de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle des Nations unies, OMPI. Après avoir inventé en 2005 le dispositif fixateur externe utilisé pour traiter les maladies osseuses, notamment les fractures du coude, Madame Esmaili a été nommée la meilleure femme par l'Organisation des Nations unies pour la propriété intellectuelle WTPO et reçoit en 2008 une médaille d'or, un diplôme d'honneur, un prix en espèces de 2 000 $ en tant que meilleure inventrice iranienne. L'invention d'un fixateur externe par le docteur Maryam Esmaili permet de traiter toutes sortes de fractures osseuses, déviations, de soulever l'os jusqu'à 5 cm et de stabiliser après l'ablation d'une tumeur osseuse. Cet appareil présente 31 avantages par rapport à d'autres méthodes et jusqu'à présent, plusieurs patients ont été traités avec cet appareil et aucun effet secondaire n'a été observé chez eux. Maryam Esmaili est la seule inventrice à avoir reçu 2 médailles consécutives de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle des Nations unies. L'inventrice iranienne a remporté le titre de meilleur inventeur au concours international des inventions de Séoul, la capitale sud-coréenne. Elle a également pu remporter le prix spécial des Nations unies pour la propriété intellectuelle. Dans le cadre de son doctorat, Maryam Esmaili a rejoint le département des sciences et technologies de la santé de la Harvard Medical School aux États-Unis. Elle a terminé sa thèse dans le domaine des valvules cardiaques. Elle a effectué des recherches approfondies sur les fractures orthopédiques, a publié des livres et des articles dans ce domaine. Le docteur Mayam Esmaili est alors actuelle assistante de recherche à la faculté de médecine paramédicale de Téhéran.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.